footballeur. J'étais à l'honneur. Et croyez-moi qu'à l'époque, j'hésitais pas à monter au filet.
Touchdown!
The man!
The myth!
The legend!
Accélère! Accélère!
Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain!
Campus Tour, it's in the game!
Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans l'émission sportive On Sport Pas Plus Mal, l'émission sportive de Radio Campus Tour. Bon, pas que, parce qu'il y en a une deuxième quand même avec Seb,
oui.
qui présente de ce côté.
L'excellente émission Chicago United.
Il n'y a que des émissions sportives
excellentes. Il n'y a que des émissions exceptionnelles.
Des émissions excellentes de tout court, de toute façon.
C'est ça.
Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà,
bonsoir.
Donc,
à part Prestart, ils sont vraiment à chier.
Oui, en plus ils ont grillé un écran, donc autant dire que bon, c'est vraiment dommage. Donc messieurs, bonsoir. Donc on a l'équipe habituelle et donc notre nouvelle recrue Arthur.
Notre recul, notre mercato d'hiver.
Voilà, exactement. Parce qu'on était encore un peu...
La moyenne d'âge, Gabriel, t'es sur la sellette. On attaque, attention.
C'est pas moi qui suis le plus sur la sellette.
Oh, mais lui, il s'en va pour études après. Il peut rien. Messieurs, ce soir, vous avez tous un sujet, sauf Gabriel. Enfin, si, t'as le quiz si, finalement, mais tu pourras parler sujet. De... Voilà. Un quiz...
Je remets ma fraise à chaque sujet, comme d'habitude.
un quiz foot. Je sais, j'ai mis le jingle quiz que tu adores, donc je te le dis d'avance. Voilà.
Allez, alors.
Je te le dis tout de suite, tu serais moins surpris.
Ça danse la couleur.
Voilà. Au niveau des musiques, c'est moi qui m'en suis occupé. La dernière fois, il y a 15 jours, je vous avais fait écouter des 2004... française avec, je sais que Rami a adoré Ma Révolution de Jennifer.
Pas du tout.
C'était ironique, bien sûr. Ce soir, on est parti dans l'international. Donc, il y aura trois titres. Normalement, il y en a un, le dernier. J'ai fait exprès de le mettre en dernier pour que ça reste bien dans la tête. Voilà, il y en aura d'autres que je passerai si on a le temps.
Il y a un truc qui va rester dans la tête ?
Oui,
oh,
oui.
Ah, oui, la guerre psychologique.
Je pense que tu la connais, mais.
C'est un peu comme à Noël quand, pour emmerder Philippe, pour faire passer
voilà.
La carrière.
Ouais, ouais.
La semaine dernière, tu aurais connu aussi les playlists.
Oui, c'est vrai.
Alors, j'ignore dans quel ordre on va démarrer, mais j'ai mis
le. C'est Rami qui est censé commencer d'après le programme établi.
Oui, mais moi, je suis un boomer.
Il n'a pas Twitter.
Enfin, si, mais j'ai pas le temps de regarder.
Mais il sait pas s'en servir.
Voilà, je sais pas m'en servir. Du coup, on part direction l'Australie. Alors, dans ces cas-là, jingle.
Merci beaucoup Cédric. Troisième Grand Prix de la saison 2024 en Formule 1. Ils n'étaient que deux à avoir contesté l'immense supériorité de Max Verstappen lors de la saison 2023. Sergio Pérez, auteur de deux victoires, Baku et Jeddah, ainsi que Carlos Sainz au Grand Prix de Singapour, l'un des meilleurs événements selon moi lors de l'année 2023. Et oui, je peux faire Grismine, Philippe, mais...
Non, mais Philippe, la Formule 1 le désole depuis
plusieurs
années.
Depuis à peu près l'an 2000. Mais bon.
Et alors que 2024 semble devoir se résumer à une nouvelle domination sans partage des Red Bull, et ben c'est Sainz qui en a profité de l'abandon prématuré de Verstappen sur un problème mécanique pour s'adjuger le Grand Prix d'Australie ce dimanche à 5h du matin. Petite question, qui l'a regardé le Grand Prix ?
Moi
aussi.
J'ai regardé le résumé le matin vers 10-11 heures.
Ça compte pas.
LOL.
Fallait se réveiller à 5 heures, ça en valait la peine.
Ou alors,
oui, mais quand
dormir.
On va se coucher
fallait
à 5 heures, est-ce que ça compte ?
Comme moi. Félicitations. Félicitations. On a le duo Formula, là, les puristes.
Ouais, là, on a Franck Montagny et puis Julien Febro, quoi.
Oh, j'aurais préféré Jacques Villeneuve.
Franck Montagny.
Ouais, tu radotes beaucoup, c'est pour ça.
Ah oui. Qu'en pensez-vous, Jacques ?
Oui, voilà, c'est pas compliqué.
C'est Arsène Wenger de la F1, en fait.
Un
ça,
peu,
c'est
ouais.
Un petit peu. Et le pilote espagnol qui était forfait lors du Grand Prix de Jeddah il y a 15 jours, après avoir été opéré de l'appendicite, remplacé par brio par Oliver Berman qui avait fait un P7 au Grand Prix de Jeddah, et ben Carlos Sainz a signé un retour fracassant à Melbourne. Déjà qui était. Il était très performant lors de la séance de qualification ce samedi. Il a même titillé Verstappen. Mmh. Et il a aussi montré sur les premiers tours qu'il avait les armes pour jouer la gagne lors de ce Grand Prix. Hein. et grâce à 4 zones DRS, il a pu se glisser dans le sillage de la Red Bull avant de prendre l'avantage dès le deuxième tour. Et par la suite, la course a été relativement tranquille pour lui, avec une avance bien gérée sur son coéquipier Charles Leclerc. Et la Scuderia Ferrari signe son premier doublé depuis 2022. Et oui, depuis le Grand Prix de Bahreïn 2022.
Ça a remonté, ouais. Hein, franchement.
Ça a remonté. Ouais, ouais. Singapour, c'était deuxième et troisième, avec la victoire de Sergio Pérez.
Et Singapour aussi, c'est le seul moment où Ferrari réussit à s'éliminer avant le premier virage.
Ça, c'est vrai. Et derrière les deux voitures italiennes, on retrouve aussi les deux McLaren de Lando Norris qui complètent le podium sur ordre d'équipe, parce que Oscar Piastri était troisième. Mais Zach Brown a dit « laisse passer Lando Norris qui avait plus de rythme » et c'est Lando Norris qui a fini troisième.
Ce qui était logique.
Ce qui était logique, ça c'est vrai. Et ce Grand Prix d'Australie n'est pas allé bien loin pour Verstappen qui a rejoint son stand à la fin du quatrième tour, dépassé dès le deuxième par Carlos Sainz et son frein arrière droit a commencé à fumer avant de prendre feu. Et le leader du championnat a connu ce week-end son tout premier abandon depuis le 10 avril 2022, à savoir ce Grand Prix de Melbourne.
Je peux vous dire que le taux de satisfaction en Grande-Bretagne et en Italie a dû
y a pas que...
Et en Australie aussi. Hein.
Je pense dans le monde entier, sauf aux Pays-Bas.
Au moment où on a tous vu la fumée, on a commencé à avoir un léger espoir. Et quand la fumée s'est transformée en quasi-incendie, là on s'est dit, allez c'est bon,
c'est
on va avoir un beau Grand Prix.
Dommage, j'ai pas la musique Samba de Janeiro. Mettez ça.
Là t'aurais pu mettre du Kylie Minogue. Vu que c'était en Australie.
C'est vrai.
Oui, c'est vrai en plus.
En plus. Donc, Red Bull a vécu un week-end compliqué avec l'abandon de Verstappen, avec pour seule récompense la 5e place de Sergio Pérez, parti 6e à la suite d'une pénalité en qualif. Le pilote mexicain n'a jamais réussi à remonter sur les McLaren et Ferrari et accuse à l'arrivée un retard de 56 secondes sur le vainqueur, Carlos Sainz.
Alors, excuse-moi, Rami, je pense qu'on va juste faire un clip de ce que tu viens de dire et on va la passer à chaque Grand Prix parce qu'en fait, il ne sert à rien.
Je pense simplement, comme Pérez... j'ai dit lors de l'Arabie Saoudite, qu'il n'en a plus rien à foutre.
Ouais, je pense. Ouais,
bon, voilà. Je pense qu'il va faire des podiums, mais après, il sera remplacé à la fin de la saison. Hein.
Non, ils vont... Qui c'est qui voudrait être numéro 2 de Verstappen?
Liam Lawson.
Liam Lawson ou Ricardo?
Ricardo avec sa saison chez AlphaTauri.
C'est vrai qu'il est sur la sellette.
Il est sur la sellette.
Ouais. Tu mets Ricardo à Red Bull comme pot de fleurs et tu mets Lawson à Racing Bull comme formation pour l'année d'après.
Voilà. C'est pas faux.
Lawson Tsunoda, quelle belle équipe.
Ah oui, entre un gueulard et...
Au bout de 3 virages, déjà c'est fort.
Ça c'est très fort, hein. Et si la course n'a pas été très bonne pour les Red Bull, que dire de celle de Mercedes? Entre l'abandon de Lewis Hamilton au 17e tour, qui a vu son moteur se couper complètement, qui l'a empêché même de rejoindre son garage pour abandonner, mais la frayeur est surtout venue de George Russell, qui, au dernier tour, s'est crashé. Hein.
Tu sens que Lewis Hamilton, il n'essaye même pas cette année.
Mais y a trois
il, il en a déjà marre de la voiture, ouais. Avant même de commencer. Il dit...
Et le pire, c'est qu'il a voulu privilégier une monoplace que pour la course plutôt que la qualification. Ouais, et au final, c'est un pari raté.
Bah, ça a bien réussi.
Mais je pense qu'il y a trois pilotes qui vont vivre une saison difficile. Pérez, parce qu'il sait déjà qu'il est
sur la sellette. Ouais.
Hamilton, parce qu'il sait déjà que l'an prochain, il a Ferrari, tu sens qu'il n'en a plus rien à foutre. Et Leclerc, parce que tu sens que Sainz, lui, comme il sait qu'il sera aussi mis hors jeu l'année prochaine,
il va jouer sa gagne.
Il se préoccupe même plus d'avoir un coéquipier et qui se dit maintenant je joue pour la gagne, tout pour la gagne, pour ma pomme. Et je pense que ces trois pilotes vont avoir une saison difficile.
Exactement. Donc aussi samedi lors des qualifications, l'ambiance s'est quelque peu allégée dans les rangs français. Petit clin d'œil à Laurent Dupin grâce à la présence d'Esteban Ocon en Q2, parti 15e et auteur d'un bon départ. Malheureusement, le pilote français a dû compensé avec la malchance pendant la course, alors qu'il luttait avec Magnussen et Albon pour le point de la 10e place. Et mauvais arrêt au stand avec aussi un débris de carbone qui était coincé sur sa monoplace, lui a fait perdre un temps précieux et il s'est classé 16e et dernier. C'est pas mieux aussi pour Pierre Gasly qui termine 13e.
Et qui a pris une pénalité.
Et qui a pris une pénalité en sortant de la voie des stands.
Et il arrive à passer de 0 point à 0 point.
Donc la saison va être longue pour
Oui. Et aussi le bonnet d'âne adressé à Williams entre la séance d'essai où Alexander Albon crache sa monoplace Williams n'a pas le matériel pour réparer la monoplace endommagée.
Techniquement, le règlement fait qu'il n'a pas le droit d'avoir une troisième voiture.
Ah oui, pas troisième voiture, tout mais monde, je parle de matériel.
Tout le monde contourne la règle en ayant des pièces pour une troisième voiture, mais techniquement, il n'y a pas de troisième voiture possible.
Moi, je parlais surtout des pièces pour réparer la monoplace endommagée d'Albon. C'est de l'amateurisme, chose qu'on n'a jamais vue sous Sir Frank Williams, sous Patrick Head, sous Adrian Newey, sur Frank Dernie et même sous Claire Williams. Et de voir que c'est Logan Sargeant qui en paye les frais, c'est même pas une question de niveau, c'est une question de principe. Parce que c'est Albon qui endommage sa monoplace, c'est lui qui doit ne pas participer
pas
à cette course.
C'est pas fair play. C'est pas fair play. Oui. C'est lui qui s'est crashé. Bah, très bien, c'est à lui de ne pas faire le Grand Prix. Logan Sargeant, lui, il a fait sa séance de qualif et
surtout,
le concours.
Surtout, ce qui me fait rire, c'est l'espèce de défense complètement pété du cul de James Vowles, le patron de l'équipe.
Qui était chez Mercedes avant.
Et qui dit, c'est pas qu'on pénalise Sargeant, mais on est obligé de prendre notre meilleure option pour marquer des points.
Donc, et au
gros,
final,
ça veut dire que t'es une merde,
hein. Albon ça, n'a même pas fini dans les points, il a terminé 11e.
C'est ça le karma.
C'est ça le karma. Donc le prochain Grand Prix aura lieu le 7 avril, ça sera au Japon à Suzuka, un circuit qui nous rappelle pas mal de souvenirs dont on avait évoqué il y a plusieurs mois. Et juste pour finir, est-ce que vous, il y a un Grand Prix qui vous a marqué en Australie ces dernières années?
Bah, l'année dernière.
Le carambolage.
L'année dernière, tu as deux Alpines qui s'envoient tous les deux dans le décor. Tu as un drapeau rouge un peu, on va dire.
Vers la fin.
Et surtout, quand ils sont repartis à trois tours de l'arrivée, on savait tous comment ça allait
ça
finir au départ.
Forcément,
c'est terminé
en catastrophe.
Ils sont partis, il y en a cinq au final dans le décor, et nous, on a vu nos deux Alpines à côté d'un grillage. Voilà. Par contre, niveau drapeau rouge, ils ont été plus réactifs que cette année, parce que franchement, cette année, la virtuelle safety car sur l'accident de
George Russell,
c'est drapeau rouge. Tu as une voiture qui est sur
au milieu de
pas
la
forcément,
route.
Parce que comme c'est le dernier tour, tu aurais relancé la course à un tour et provoqué un carambolage.
Tu arrêtes le tour, tu arrêtes le Grand Prix.
Tu arrêtes le Grand Prix, voilà.
Et alors, même si tu dois repartir sur un tour.
Non, tu ne risques pas sur un tour.
Pas sur un tour, tu arrêtes la course et hop.
Tu arrêtes la course, mais tu ne laisses pas une monoplace qui est à moitié retournée au milieu de la piste. Et là, tu dis, oh, virtuelle safety car.
À la sortie d'un virage.
Voilà, à la sortie d'un virage, surtout.
En plus, est extrêmement compliqué.
Et toi, Philippe?
Alors, des Grands Prix d'Australie, j'en ai vu quelques-uns. Non, je pense que celui qui me restera le plus, c'est 96, le premier Grand Prix d'ailleurs à Melbourne, sur l'Albert Park.
C'est Damon Hill qui gagne la course.
C'est Damon Hill, et c'était surtout les grands débuts de Jacques Villeneuve en Formule 1, et il avait failli gagner. Et c'est à ce moment-là où ça confirmait que, oui, il serait un des meilleurs. Après, malheureusement, c'était Jacques Villeneuve, c'est-à-dire qu'il a eu son titre et après,
plus rien. Bon.
À l'époque où Melbourne, c'était le premier, c'est ça? C'est
la première grand, grand, la premier grand Prix de la saison.
Et avant, c'était à Adélaïde où ça se finissait à la fin.
C'était toujours le dernier Grand Prix de la saison.
Et toi, Arthur?
Niveau Formule 1, je ne m'y connais pas trop, mais c'est vrai que celui de l'année dernière, il avait fait quand même pas mal parler. J'ai quand même souvenir de celui de l'année dernière.
Ouais, celui de 2023 à 7h du matin et au final voir une relance.
Tu pourrais rajouter l'accident d'Alonso au départ quand il était chez McLaren où 2016, la voiture se coupe en deux. L'accident de Brundle en 96 justement où il passe par-dessus tout le monde.
Häkkinen 95
à Adélaïde. Il y en a tellement.
Il y a aussi
Nigel Mansell qui se casse le pied dans le Grand Prix le plus court de l'histoire qui avait duré à l'époque, qui avait duré 6 tours.
D'ailleurs, en parlant d'accident, la dernière fois que Verstappen avait dû faire un abandon, c'était il y a 2 ans.
En Australie.
Après, on aurait pu parler du chaos final Damon Hill, Michael Schumacher 94.
94, il y en a tellement.
Il y a
c'est
eu.
C'est un circuit mythique.
Et que ce soit à Adelaide ou à Melbourne. Maintenant, il faut revoir peut-être le circuit de Melbourne parce que ce fameux virage là où il y a eu l'accident de Russell. Il n'est pas adapté pour.
Albon s'était crashé l'année dernière.
C'est un circuit historique. Là, c'est un peu comme.
Ouais, mais c'est un peu comme le Radio. Au moins redessiner ce virage. Ils l'ont redessiné, mais ils ont gardé cette espèce de mur qui propulse les voitures vers le circuit.
Mais tu vois, c'est un peu comme le Radio à Spa. Ça reste
mythique.
Ça reste dangereux, mais. Voilà, c'est un truc, tu ne peux pas enlever le radio de Spa, tu ne peux pas enlever les virages de Imola, par exemple.
Ils n'y arrivent pas.
Voilà, c'était tout pour moi. Rendez-vous le 7 avril à 7h du matin pour le Grand Prix du Japon à Suzuka.
Ouais.
Préparez le réveil, préparez un café, montez le volume, rendez-vous au premier virage.
Merci Rami.
En espérant qu'il ne pleuve pas.
On est parti pour la première chanson.
C'est ta playlist.
Exactement, donc de 2004 à l'international. Donc le premier titre, alors c'est un DJ suédois qui est toujours en activité d'ailleurs, Eric Fritz aujourd'hui. Il commence à faire son âge, hein, il a 47 ans, on les a découverts qu'ils étaient jeunes. tous les ados dont nous faisions aller encore un peu partie en 2004 se sont
jadis
émerveillés, émerveillés les yeux devant ce clip qui a déjà été assez chaud, je pense, à
l'époque. Pour l'époque. Hein,
voilà, d'ailleurs, tous les autres clips derrière,
globalement,
pas en général, mieux, oui. Sont devenus de plus en plus torrides. Ouais, bref, c'était un des premiers qui nous a un peu marqué à l'époque, avec, je pense, sa chanson la plus marquante, « Call on me ».
Et musique.
Au départ.
Ça a peut-être démarré. Ou pas. Oui. Non. Je sais pas.
Ah.
Et let's go. Ah là là,
Coup
dur pour le joueur français.
Il était même pas prêt en plus.
C'est pas grave.
Donc, petit retour sur le tournoi Destination.
Du coup, rugby, pas tennis
de table. Rugby, oui, hein, voilà. Le tennis de table viendra un peu plus tard. On fait passer les meilleurs à la fin, c'est toujours...
On garde toujours le meilleur pour la fin.
C'est pas trop fatigué, Cédric.
Alors, on va faire un petit bilan par équipe, en reprenant le classement à l'envers. Sixième, le Pays de Galles. Alors, les années se suivent et se ressemblent pour les hommes de Warren Gatland. Le Pays de Galles est au fond du trou. Comment une équipe aussi talentueuse, il y a quelques années, a pu tomber aussi bas? C'est à ne plus rien y comprendre, alternant parfois le très bon et le franchement mauvais. L'avenir semble de plus en plus sombre, tant que la relève tarde à venir. Donc, en gros, au niveau des notes, c'est un zéro pointé, puisqu'ils ont une magnifique cuillère de bois pour fêter ça. Bravo les Gallois, merci d'être venus.
Cuillère de bois, ça change en tout cas.
Salut mon pote.
Salut mon pote.
C'est logique.
C'est logique.
Cinquième, l'Italie. Alors, on a souvent rigolé des Italiens. Nous, non, jamais. on a douté de leur capacité à exister dans le tournoi. cette année, on peut franchement ranger les trompettes. L'Italie a enfin montré de ce qu'elle est capable de faire. Une résistance héroïque contre les Anglais, une défaite normale contre les Irlandais, un match nul volé par les Français et deux belles victoires pour conclure. Une cinquième place qui finalement reflète pas du tout le parcours des Italiens qui, espérons-le, enfin seront à la hauteur du tournoi. On peut leur mettre, allez, une petite note encourageante, un petit 12 sur 20.
Ah oui, au moins, oui.
Un petit 12 sur 20.
Donc au revoir la montée-descente du tournoi Destination.
Donc en fait, ce serait le Pays de Galles qui se casse parce voilà. qu'ils sont nuls.
Et encore, ils auraient pu gagner quelques matchs, les Italiens.
Ils auraient dû battre la France et l'Angleterre.
Ah, peut-être et l'Angleterre enfin aussi. Un tournoi à 6 nations.
enfin.
Bah là, 5 encore cette année. Mais...
Au bout 5, de... parce que tu enlèves le Pays de Galles.
Au bout de 24 ans, ce qui est quand même magnifique.
D'ailleurs, il y aura un barrage. Enfin, la Géorgie veut jouer un barrage contre les Pays de Galles.
C'est vrai.
On verra bien leur niveau.
Alors, quatrième, l'Écosse, une victoire étriquée contre les Gallois, une défaite, un vol hein, par la France, une victoire historique contre la perfide Albion, notre meilleur ami. Par contre, un match aux abonnés absents contre l'Italie, avant de résister face aux Irlandais. Voilà un tournoi, coup sur coup ça, pour les Écossais, qui auraient pu mériter mieux, qui auraient pu faire franchement pire. Mais encore une fois, bah, comme d'habitude, ils explosent en plein ciel. Au niveau de la note, je mets un petit 10. Ça aurait pu être mieux. Troisième, l'Angleterre. Alors, l'Angleterre est chanceuse. Très chanceuse. Une victoire quasi illogique face aux Italiens, tant ils étaient battus par les Italiens. Une victoire sur le fil face aux Gallois. Une défaite totalement normale contre l'Écosse. Hein, avant l'exploit, totalement neutre là-dessus. Avant l'exploit venu de nulle part face à l'Irlande. Un match qui restera dans l'histoire car le monde entier était pour l'Angleterre. C'est la première fois et peut-être la seule fois que ça arrive. Avant de perdre sur le fil face aux Bleus. Un tournoi étrange, sans relief, ennuyeux, sans émotion. Bref, de l'Angleterre toute crachée au niveau de la note. Bah, ça va être un 13.
C'est
une note ennuyeuse.
Disons que ils ont comment dire fait mieux que ce qu'on attendait. Voilà. On les attendait pas pour.
On les attendait. Oui.
Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu.
Je suis quand même déçu.
On les attendait pas pour jouer la gagne dans le tournoi. Au final, ils l'ont joué et au final, ils le gagnent.
Ils
pas.
Ont même failli donc gagner le tournoi en plus. C'est voilà. ça le pire quoi. Alors deuxième, la France. Alors une deuxième place qui n'est absolument pas méritée.
Oui.
Alors oui. oui C'est Alors vrai. Oui, on va dire que je fais encore de l'anti-français, blablabla.
Oui,
laissez-moi non. justifier.
Ça s'appelle la méritocratie.
La méritocratie, ils ont traversé la rue. j'aime cette équipe de France. Oui, je le dis, j'aime cette équipe de France. La plupart des joueurs ne me posent aucun souci. Sauf Lucu et puis Jalibert. Mais ça, c'est personnel. je ne peux pas les voir. Mais comment se fait-il qu'une équipe aussi joueuse et aussi douée arrive à jouer aussi mal? Alors, il n'y a pas que cette équipe de France. On en a vu 11 hier soir qui étaient aux abonnés absents. Hein. Mais bon,
et 11 lundi soir aussi.
Et 11, voilà. Donc voilà, on n'a pas... Voilà. Alors, certains diront que c'est l'absence de Dupont qui est la cause. Non.
Ceux qui ne connaissent rien, peut-être.
Ceux qui ne connaissent rien. C'est-à-dire c'est possible. Le commentateur de TF1 lors de la Coupe du Monde qui était en train de s'exciter sur la jambe de... Antoine Dupont.
À titre avait plus de valeur pour lui que Fabien Galthié, je pense.
À titre personnel, je dirais plutôt que les Bleus ont montré trop tôt leur capacité et qu'entre-temps, les autres ont appris à les contrer. Oui, les Bleus peuvent être aussi forts que les Sud-Africains, sauf en quart de finale de Coupe du Monde, les Irlandais ou les All Blacks. Mais il n'y a rien qui semble fonctionner. Fabien Galthié est passé de coach ultra révolutionnaire, incroyable, qu'est-ce qu'il est fort, qu'est-ce qu'il est beau avec ses lunettes, à une espèce de copie plus ou moins pâle de Raymond Domenech. Je t'avais dit Raymond Domenech. Il fait de belles phrases dans la presse, il nous parle de statistiques comme un VRP multicarte, mais sur le terrain, c'est moche et compliqué. Alors qu'avant, c'était simple et beau.
Ah, mais il n'a pas demandé Estelle en mariage encore.
Il n'a pas encore demandé Estelle en mariage, c'est peut-être ça qui manque. Peut-être qu'il va demander Raphaël Ibáñez en mariage. Il y a du pain sur la planche, à part quelques confirmations. On peut mettre Charles Olivon, on peut mettre Grégory Aldrit.
Le paquet d'avant, peut-être.
Le paquet d'avant, hein. Je pense que c'est assez costaud. À l'arrière, par contre, ça, voilà. À part Penaud, qui on sait très bien, à un moment, il va faire une connerie. Et il va marquer. Donc, il va falloir trouver un équilibre et éviter d'être trop dépendant à un Antoine Dupont qui n'est pas éternel, hein, comme un certain Kylian M en équipe de France foot de football. est le champion. Donc, au niveau de la note pour la France, 9. Parce que ça pourrait être largement mieux. Champion, l'Irlande. La meilleure équipe de l'hémisphère nord a encore gagné. Certes, ce n'est pas le grand chelem. À cause du nouvel ennemi du peuple gallois et le nouveau héros du peuple mondial, Marcus Smith. Mais quelle maîtrise, quelle force mentale, quelle rapidité d'exécution. Oui, l'Irlande est belle à voir jouer. Un jeu simple, honnête, mais diablement efficace. Malgré une équipe vieillissante, l'Irlande semble, a semblé intouchable, revenant dans les temps faibles avec une furie et une soif de vaincre que seules les très grandes équipes sont capables de faire. Donc bravo aux Irlandais et surtout chapeau au public irlandais qui a toujours su montrer sa passion et surtout son fair play dans les stades. Oui, parce qu'eux au moins ils ferment leur gueule quand il y a un mec qui essaie de taper. Ce qui est beaucoup pourraient prendre modèle et surtout dans d'autres sports. Voilà. Donc pour conclure, un tournoi s'est terminé mais un autre a débuté puisque le tournoi de destination féminin a débuté le week-end dernier avec les magnifiques commentaires de Jean Abeilloux qui nous avait manqué.
Oui.
Les grandes favorites, les Anglaises, ont fait de la purée des Italiennes, hein, 48-0. Les Écossaises ont battu par miracle le Pays de Galles, 20-17. Et au stade Marie-Marvin du Mans, nos Bleus ont fait largement mieux que ces messieurs, parce que oui, elles, au moins, savent battre les Irlandais. 38-17 dans un match qui était parfois compliqué.
C'est le même score que les hommes, mais dans l'autre sens.
Mais dans l'autre sens.
Mais dans l'autre sens, voilà.
Mais l'important, comme dirait Giroud, c'est les 5 points, car elles ont obtenu le bonus offensif et partagent donc la tête du tournoi avec les Anglaises. Deuxième journée ce week-end avec l'Irlande face à l'Italie, l'Angleterre face au Pays de Galles et la France qui va défier l'Écosse au Edinburgh Rugby Stadium qui se trouve juste derrière Murrayfield. Donc c'est un peu comme le stade Jean Bouin et le Parc des Princes. Ouais. Le match évidemment sera diffusé sur France Télévisions et... Bah, comme je ne peux pas prendre parti, que la meilleure équipe gagne. Ouais.
Non, mais après, l'équipe de France, de toute façon, la logique voudrait que le match décisif, ce soit le crunch de la dernière journée.
Normalement.
Après, l'équipe de France, pour essayer, parce qu'on sait que les Anglaises vont aussi certainement gagner tous leurs matchs, qu'elles vont peut-être certainement même prendre le bonus offensif à chaque match, fois.
Un peu comme l'Irlande chez
voilà,
les hommes.
L'idéal pour l'équipe de France, ce serait aussi qu'elles prennent le bonus à chaque fois pour arriver à égalité. Et éviter de se retrouver, tu vois, dans la configuration de l'année dernière où elles sont arrivées à Twickenham avec un retard à combler. Et là, peut-être aborder le match plus sereinement, d'autant plus que ce sera à domicile où on espère que, voilà, là, on brise la malédiction parce que c'est 2018 quand même la dernière victoire française. Mais depuis, il y a c'est l'Angleterre qui les a tous
gagnés. Qui se balade. Juste pour terminer, parce que je ne l'ai pas fait, la note pour l'Irlande, 19,5 parce que je n'ai pas envie de faire de mettre 20
et
pour ne pas passer en commun.
Et ils ont perdu aussi contre l'Angleterre. C'est dommage. D'un point.
Tu peux mettre la note pour les moins de 20 ans?
Joker.
Oh le lourd. Merci Philippe pour ce bilan destination. Bon, on voilà. Espère qu'on verra bientôt l'équipe de France.
De toute façon, on va suivre l'équipe de France féminine.
Ouais. Et les hommes, eux, on les reverra au mois de juin
pour la tournée
dans l'hémisphère sud.
En Argentine.
Voilà. Dans le froid, puisque normalement c'est l'hiver.
France-Argentine. Ah, quel bon souvenir.
Quel bon souvenir.
La France.
Ouais. on va passer à la deuxième musique. À l'époque, elle était pas encore refaite. Parce que j'ai regardé un petit peu. Du coup, c'est pour ça que je me disais, à 54 ans, voilà, il faut
ça. Ça peut arriver.
Effectivement, mais Gwen Stefani était une artiste féminine en plein dans les années 90 et 2000.
Elle était en train de lancer sa carrière solo.
Voilà, 2004 d'ailleurs, donc c'est sa première année solo, un des premiers titres. Elle avait été évidemment connue avec le groupe No Doubt.
No Doubt.
Et la chanson que j'ai choisie de Gwen Stefani, c'est What You're Waiting For. Donc.
What an amazing time, what a family. How did the years go by? Now it's only me. Get
demi-finale va pouvoir commencer.
Les ping-pongueuses se rencontrent.
Oh, elle a amené sa petite balle rebondissante.
Elle rebondit bien.
Et la prête à la Canadienne.
Mais la Canadienne n'en veut pas.
Personne ne veut de la balle rebondissante, Eric, regardez.
Elle fait le ping.
Elle fait le pont.
Ping.
Pont.
Ping.
Pont.
Ping.
Et c'est le pont de la balle.
Qu'est-ce que c'est que ce jingle?
C'est un jingle de merde.
C'est l'idée de qui, ça?
C'est l'idée de qui?
C'est l'idée de moi. Non, en fait, non.
Bravo.
Non, c'est... Je vous dirai hors antenne. Pour pas qu'on ait de problème avec l'Arcom.
Comme c'est étrange.
Le week-end dernier a eu lieu les championnats de France de tennis de table. On est obligé un peu d'en parler parce que c'est un événement.
Avec, je crois, le résultat le plus incroyable et surtout la célébration la plus incroyable.
Oui.
Les deux frères Lebrun, celui qui gagne et l'autre qui pleure. Et alors, ouais. Tennis, c'est la plus belle célébration.
C'est la même chose en finale féminine.
Ça, c'est vrai.
Donc il y a cinq tableaux qui étaient, comme l'année dernière, engagés. C'est d'ailleurs le tableau où finalement on va avoir une Joconde qui va être sur le podium. D'ailleurs, c'est la seule.
Ouais, c'est la seule.
C'est
ouais.
Le seul podium, on va dire, Jocondien qu'on aura.
Deux même.
Oui, il y en aura deux parce qu'effectivement, il y en a en double féminin. En mixte, au début, ils n'étaient pas beaucoup dans le tableau, forcément. Pour jouer avec un gars et une fille, c'est pas forcément facile. On a retrouvé finalement Audrey Zarif, donc championne de France
en titre
en simple, qui était en binôme avec Alexandre Robineau. Ils se sont plutôt bien débrouillés. J'ai vu la demi-finale contre Isa Coq et Enzo Anglès. Et finalement, ils n'étaient pas très bien embarqués. Et puis dès que j'ai mis le live, je les ai fait gagner parce que. Ils ont gagné les 3 sets suivants.
Voilà. Tu leur as porté chance.
Voilà. Alors, Cédric, j'ai pas allumé pour la finale, du coup.
Cédric, donc en gros, tu peux influer sur les résultats du tennis de table. Mais et tu... en plus, tu influes sur la Formule 1. Parce que la première fois que tu regardes la F1, Verstappen abandonne. En fait, c'est ça.
C'était magnifique. Week-end parfait.
Sauf que voilà, en finale, malheureusement, la paire Zarif-Robineau s'est inclinée lourdement, hein, 3-0. C'était que des 11-6 et des 11-5. Donc, il n'y a même pas eu possibilité d'accrocher sur un set. Du coup, grosse déception. Et ça ne va pas être la seule pour Audrey, malheureusement. Mais bon, au final, c'est quand même une médaille d'argent. Battue par Camille Lutz et Bastien Rempart. Alors, Camille Lutz, ce n'est pas la seule médaille d'or qu'elle va gagner. Vous allez voir. Mais en tout cas, déjà, bon, pour Audrey, finalement, ça fait quand même une finale. Donc, ce n'est pas si mal que ça. Mais évidemment, les quatre autres tableaux, il y a évidemment simple et double homme et simple et double femme. On va passer du côté homme d'abord parce qu'il y avait vraiment moins de surprises. Alors, l'année dernière, il ne faut pas oublier que le double homme, les frères ne s'étaient pas alignés. Donc du coup, forcément, c'était beaucoup plus ouvert l'année dernière. C'était Stéphane Wesch et Jules Cavaillès qui avaient gagné. Alexis et Félix Lebrun ont fait de la pâtée pour chat de tous leurs adversaires. Il faut noter qu'en huitième de finale de double, les frères Lebrun ont battu deux Quatrésiens, donc deux joueurs de la 4S, Joe Seyfried et Hugo Deschamps, donc, qui ont eu l'honneur de les avoir sur le passage. Que l'honneur, parce que les résultats, c'était forcément plus
c'était compliqué. Sympa, en tout cas,
il y avait une classe d'écart.
Voilà, il y avait une classe d'écart. Les frangins qui ont battu en finale Florian Bourasso et Esteban Dor. Bon, forcément, quand tu as deux frères aussi doués l'un que l'autre, c'était compliqué, forcément, d'aller chercher autre chose qu'une médaille d'argent ou de bronze, évidemment.
C'est clair.
Donc, la finale, c'était les frères Lebrun donc, contre Bourasso et Dor en médaille de bronze. Donc là, c'est vrai que je suis étonné qu'ils ne jouent pas, finalement, la petite finale pour que... Il n'y a qu'un double qui ramasse la médaille d'or, la médaille de bronze, pardon. Et là, c'est le binôme... Achard et Wesh qui l'ont décroché avec l'autre binôme Cassin et Coton. Oh, pour Stéphane Wesh, c'est encore un podium en double pour lui. Côté simple homme, pas de surprise non plus, forcément. On a retrouvé le même binôme que l'année dernière, dans le même ordre. Le grand frère Alexis qui bat Félix. Bon, alors, effectivement, j'ai relu quelques tweets derrière. Et effectivement, tous ceux qui ont un frère au niveau âge rapproché, savent très bien ce qu'il faut faire. Voilà, quand t'es l'aîné, forcément, t'hésites. T'en en rajoutes évidemment un peu beaucoup.
J'aime beaucoup, c'était justement la Fédération Française de la Lose qui avait mis une photo, enfin, ils avaient mis la vidéo, et ils disent tu peux être un des plus grands champions de tennis de table, rien ne battra battre son petit frère.
C'est ça. Exactement. Le podium l'année dernière, c'était donc Alexis, Félix, et en troisième place, c'était Simon Gauzy et Jules Roland. Bon, bah là, à part Jules Roland qui n'est pas sur, sur le podium, et c'est, alors je crois que ça se prononce Khan, San ou Chan, enfin voilà, Akuzu, qui a pris la place de Jules Roland, Simon Gauzy toujours présent, et Alexis, qui donc bat encore son frère Félix. Donc on rappelle, Félix, c'est le plus jeune. Numéro 5 mondial, il n'a pas encore 18 ans. Et le grand frère Alexis qui est triple champion de France. Et donc lui qui est au-delà de la 20e place mondiale. Donc voilà, chacun finalement a sa petite partie préférée. Moi j'en ai discuté avec, avec mon frère qui est plus jeune. Et je lui dis, est-ce que du coup, t'aurais accepté que je me, bah, que je me gosse en t'ayant battu dans un sport. Et je lui dis, est-ce que tu aurais accepté d'être battu 3 fois en finale de championnat de France, mais être numéro 5 mondial? Il m'a dit oui. Moi aussi, donc j'accepte.
C'est beau. C'est
mais
beau.
C'est vrai que voilà, finalement, il y a un peu 50-50 pour puis, les frères, finalement.
Puis, honnêtement, la célébration, bah, elle est juste incroyable. Parce qu'il saute sur la table et oui, tu as l'impression c'est il a écrasé son petit frère.
Ouais, ouais, ouais. Bah, qui ne l'aurait pas fait sur son petit frère?
Ouais, c'est clair. Voilà.
De l'autre côté, c'est une histoire de famille également. Alors, on va d'abord partir sur les doubles. Double féminin, où il y avait bah, pas mal de jocondiennes qui étaient engagées. Je crois que pas moins, elles étaient 7 quasiment.
7 en double,
ouais. Et 7 en simple. Donc le double cette année, c'est Pauline Chasselin et Isa Koch qui l'emportent. Alors bon, l'année dernière, c'était pas la même histoire, hein, normalement. C'était Pritika Pavad hein, qui l'avait emporté avec Camille Lutz. Bah là, du coup, effectivement, on n'a pas vu une seule Lutz sur le podium. Du double dame, donc ça change. D'ailleurs, les finalistes de l'année dernière ne sont pas là non plus. Enfin bref, quasiment tout le double, le podium du double a changé. En finale, elles ont battu Lucie Mobarek et Anaïs Salpin. Il y avait Nolwenn Faure encore qui était sur le podium comme l'année dernière avec la même binôme, Lucie Gauthier. Donc c'est quand même la deuxième médaille de bronze que le binôme remporte. Donc finalement, c'est une solide confirmation pour les deux filles.
Surtout qu'elles restent sur de très bonnes performances en ce début d'année 2024, Nolwenn. Hein, entre voilà. Sa victoire à Argentan contre Montpellier et là, les médaillées de bronze en double, c'était vraiment pas mal. Hein.
L'autre binôme qui a fini bronze, c'est Picard et Liu. Donc voilà, c'est un podium totalement changé du côté des doubles féminins. On va quand même parler donc de Jeanne Golab et Marie Menanteau. Marie Menanteau qui était une ancienne jocondienne hein, qui était dans l'équipe avant l'arrivée de Clémence ou Nolwenn, je pense. Elles se sont faites toutes les deux éliminées en 16e de finale par le binôme Mini Pujol. Il y avait Eden Josset et Margot Richard qui étaient en course aussi, sorties d'entrée de jeu en 16e aussi contre Shan et Zou. Et Clémence Chevalier et Héloïse Latour, elles qui ont fait un petit tour de plus. Je crois que parce qu'elles étaient exemptes, il me semble, en 16e. Mais et par contre, ils sont tombés sur Pauline Chasselin et Isa Koch. Donc bon, voilà, contre les futurs vainqueurs. Donc forcément, c'était vraiment compliqué. Mais bon, voilà, est-ce que ça fait quand même un petit match d'expérience pour les filles? On essaiera d'en discuter pour elles au prochain coup. Et du coup, bah, il est temps de parler des simples dames. Alors l'année dernière, donc du coup, c'était Audrey Zarif qui l'avait emporté devant Charlotte Lutz. Charlotte, bah, rip, hein, puisqu'elle a fait malheureusement bis repetita. La médaille de bronze était partagée entre Isa Koch et Anaïs Salpin. Alors, la première question, c'est que du coup, il y a quand même une internationale française qui n'a pas fait ses simples dames. C'est Jian Nguyen, qui n'a pas beaucoup participé en Pro A, qui n'a pas beaucoup participé, qui n'était même pas là pour les simples, donc c'est quand même étonnant. Alors du coup, bah, ça, forcément, ça ouvre la porte. Pritika Pavad, qui pourtant a une valeur sûre en équipe de France, bah, elle n'a toujours pas gagné sur ces deux dernières années. Elle a fini médaille de bronze cette année. Pauline Chasselin, coucou, encore là, après avoir fait bronze en mixte et or en double dame. Elle va décrocher la médaille de bronze en simple, donc finalement, gros tournoi de sa part. Et en finale, on a eu là aussi les sœurs Lutz qui se sont affrontées, Camille contre Charlotte, donc... C'est l'aîné, là aussi, qui l'a emporté, désolé. Voilà, donc pas de bol pour Charlotte, où ça fait deux finales perdues consécutives, ouais, donc vrai. Ça fait beaucoup. Surtout que Camille, sa sœur aînée, avait déjà remporté le double mixte, donc c'est encore moins de bol. Elle aurait pu se partager une médaille, mais évidemment, en tant que sœur aînée ou frère aînée, on ne partage rien. Voilà, c'est la mission. Voilà, obligé de parler évidemment des jocondiennes qui étaient installées dans le tableau. Alors, il y en a énormément qui sont finies. Alors, il y a un truc que je ne sais pas sûr. Margot Richard, elle est jocondienne ou pas?
Oui, elle est jocondienne, okay. Ouais.
Alors, Margot Richard, Héloïse Latour, Eden Jossé, Clément Chevalier et Jeanne Goebbels se sont toutes fait sortir d'entrée de jeu. Alors certaines sont tombées sur des gros morceaux ou pas, mais d'autres voilà, se sont fait éliminer en 16e, en 8e. D'ailleurs, il restait plus, dès les 16e de finale, il restait plus que deux places fortes, Nolwenn et Audrey. Nolwenn s'incline en 8e de finale. Alors, j'ai pas vu le match, mais bon, c'est contre Pritika Pavad. Donc bon, au niveau palmarès, il y a un petit peu de logique.
Il n'y a pas de quoi rougir.
Voilà, mais on aurait préféré évidemment que Nolwenn puisse passer. Et Audrey, bon là, c'est certainement grosse déception pour elle. Donc si on la croise dans les semaines à venir, on pourra lui en parler. Mais effectivement, elle s'incline en quart de finale. Elle n'a pas pu rejoindre le dernier carré en tant que championne, enfin en tenant du titre, forcément, ouais, ça les boules. Alors elle s'est inclinée contre Charlotte Lutz. Elle menait 2-7 à 1. Audrey, et là aussi j'ai regardé et cette fois-ci elle a perdu les trois autres. Voilà, grosse déception parce que c'est le quatrième set, donc le set où Charlotte revient à égalité, où, qui était très disputé.
Au tie-break.
Voilà, est-ce que le cinquième a été pareil?
Cinquième aussi au tie-break aussi, également.
Et donc, moi, forcément, dans la tête, je ne sais pas si ça a joué, mais effectivement, comme les deux ont été gagnés par Charlotte, je pense que ça a dû être compliqué pour Audrey qui a craqué totalement, je crois, dans le sixième. Donc, déception forcément pour Audrey. J'espère qu'en tout cas ça jouera pas forcément sur les perfs des JO, mais les Sir Lutz marquent forcément beaucoup de points sur ces championnats de France, avec même si Joanna n'est pas là et Pritika Pavad qui est là aussi sur le podium. Voilà, ça risque d'être très compliqué pour Audrey d'aller chercher, mais bon, tant que la liste n'est pas donnée, évidemment on sera à fond derrière Audrey. Est-ce qu'il y en a, donc toi tu avais regardé un petit peu?
Ouais, j'avais regardé un petit peu, mais voilà. Tu as parlé de Jana Nguyen et des Jocondiennes. Moi j'étais assez surpris de ne pas voir Li He disputer les championnats.
Moi aussi, parce que je pensais qu'elle justement avait pris la nationalité française notamment pour ça. Et alors après, étant donné que comment ça s'est passé, peut-être qu'effectivement la prochaine fois on pourra voir avec Benjamin comment ça s'est passé. Est-ce que c'était prévu pour Lily qu'elle ne s'inscrive pas tout de suite? Est-ce que c'était voulu d'envoyer énormément de jeunesse, parce que voilà, toutes les filles comme Héloïse, Jeanne, etc., c'était dans l'équipe 2, donc l'équipe en nationale. Est-ce que c'était voulu d'envoyer un peu plus de jeunesse? Faudra voir la politique qu'a voulu avoir le TT jouer, mais ce serait une bonne question, effectivement, quand on les verra sur place. Donc voilà, le palmarès, les Lebrun chez les hommes, les Lutz chez les filles, globalement, parce que bon, il y a quand même Camille qui a remporté le double mixte. Donc voilà, qui était super intéressant en tout cas, ces championnats de France qu'on peut voir également sur YouTube. Donc ça, c'est aussi agréable à savoir. Donc voilà, une fin de saison qu'on va pouvoir continuer à suivre par le biais des play-down à jouer les tours, en tout cas chez les filles. Voilà, voilà.
Merci Cédric.
Merci moi.
Merci toi.
Voilà.
Merci César.
Merci. Avec César. Jusqu'à là on n'avait pas forcément mis de chansons qui restent dans la tête, mais on est obligé de mettre parce que début des années 2000, c'est des trucs qui restent dans la tête. Alors du coup c'est un groupe moldave.
Oui, c'est vrai.
Voilà, c'est un groupe moldave avec trois moldaves qui chantent en roumain. Forcément,
et avec un des clips les plus incroyables de l'histoire de tous les clips.
Exactement. Il y en a un qui est devenu coach de The Voice en Ukraine ces dernières années.
C'est vrai.
Donc Dan Balan. Mais cette chanson-là est cartonnée dans les charts de l'époque. Je parle évidemment de Ozone avec Dragosta Dintei.
Haiduc și te rog, iubirea mea primește fericirea. Alo, alo, sunt eu, Picasso, ți-am dat bip și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei. Să pleci, dar numai
spun, să-ți spun ce simt acum. Alo, iubirea mea, sunt eu, fericirea. Alo, alo, sunt iarăși eu, Picasso, ți-am dat beat. Și sunt voinic, dar să știi, nu-ți cer nimic. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei. Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi, ei. Vrei să pleci, dar numai ei, numai ei, numai ei.
Quand je pose, note mon nom sur ta liste et sur mon maillot dans le dos pour écrire mon nom en bleu. Écris mon nom en bleu. Note-le, écris mon nom en bleu.
Arthur, c'est à toi.
Alors, les JO approchent à grands pas et aujourd'hui, je vais faire un petit retour sur l'équipe de France espoir de football masculin qui va jouer cette compétition olympique cet été. Cette semaine était une période de trêve internationale et donc de rassemblement pour l'équipe de Thierry Henry. Très récemment, la semaine dernière, on a appris presque la totalité des adversaires de l'équipe de France pour cette compétition. Le tirage au sort a eu lieu la semaine dernière, comme je l'ai dit, et les Bleus affronteront les États-Unis et la Nouvelle-Zélande le 24 et 30 juillet à Marseille. Reste à décider du troisième adversaire qui opposera soit la Guinée ou une équipe asiatique. Ça se décidera en barrage dans les semaines suivantes. Alors pour se préparer à cette compétition, Henri a convoqué une liste olympique. Pour rappeler les règles du tournoi olympique qui sont assez particulières, c'est un groupe de 18 joueurs et on a le droit de sélectionner seulement 3 joueurs de plus de 23 ans. Donc pour ce rassemblement, on a eu le droit à une liste des moins de 23 ans, alors que d'habitude, les espoirs, c'est une liste de moins de 21 ans. Ça a permis le retour de certains joueurs qui avaient déjà connu les espoirs récemment, comme Kefren Thuram, oui. Manu Koné ou encore le portier lillois Lucas Chevalier. Au programme de cette trêve, les Bleus avaient 2 matchs à jouer. Le premier s'est déroulé vendredi dernier à Gaston Petit dans le stade de Châteauroux contre les moins de 23 ans de la Côte d'Ivoire. Cette rencontre s'est soldée sur une victoire 3-2 de l'équipe de France, avec un but de Daubert et un doublé du Rennais Désiré Doué. Une rencontre où la France a été assez poussive, pendant la plupart du temps dominée par la Côte d'Ivoire, et qui a montré encore des fragilités défensives qui a été notamment affirmée par Thierry Henry à la fin du match. Ce lundi, ils avaient rendez-vous contre un concurrent direct, puisque les États-Unis sont dans leur groupe. Et les Bleus n'ont pas réussi à s'imposer, malgré qu'ils menaient 2-0 dans un premier temps, avec des buts de Kalimuendo et du lensois Andy Diouf. Les hommes de Thierry Henry se sont vus rattraper dans les 10 dernières minutes et ont concédé le match nul sur le score de 2-2. Thierry Henry a notamment dit en conférence de presse qu'il y avait des manques physiques, d'autant plus que plusieurs joueurs se sont blessés ou encore étaient malades. Dans le premier match, Barcola est sorti sur blessure suite à un problème à la cuisse. Lors du deuxième match, Manu Koné est aussi sorti sur blessure et plusieurs joueurs sont tombés malades durant le rassemblement, à l'image de Mal Augusto ou encore d'Enzo Mio, ce qui n'a pas permis donc pour le sélectionneur de faire les changements qu'il voulait et de se préparer de la meilleure des manières. Néanmoins, ces matchs ils n'ont pas rassuré les suiveurs de cette équipe, puisqu'on a retrouvé les lacunes qu'on voyait lors des derniers rassemblements, avec une fragilité défensive importante, une équipe qui n'est pas capable de rester constante sur l'ensemble du match avec de nombreux trous d'air. Ça n'a donc pas forcément rassuré, malgré qu'on ait eu quand même des belles phases offensives des Bleus. La question, c'est donc de savoir si la France est un favori pour la prochaine compétition olympique. Henri, lui, il ne cache pas son ambition et sa volonté de décrocher l'or. C'est arrivé seulement une seule fois lors des JO de Los Angeles en 1984.
Et on avait gagné l'euro juste avant.
Oui,
petite mention à Michel Hidalgo. Hein.
Oui.
Alors, c'est vrai que sur le papier, on a une équipe très intéressante avec un vivier qu'on ne cesse de louer. Mais quand on voit les dernières compétitions où c'était déjà le cas, on a souvent été très déçus par ces équipes. On peut se rappeler du dernier Euro Espoir cet été avec une élimination contre l'Ukraine, alors qu'on était franchement les favoris de cette compétition. Ou encore la débâcle lors des derniers Jeux Olympiques à Tokyo, avec notamment les clubs qui ne voulaient pas que les joueurs se rendent aux Jeux Olympiques.
D'ailleurs, on va certainement avoir le même problème là.
Hein. Oui, je pense aussi. Hein. Tous les 4 ans.
Florian Maurice, voilà. Tout à l'heure, a commencé à prendre les devants en disant qu'il n'allait peut-être pas lâcher tous les joueurs pour l'équipe de France.
Le Paris Saint-Germain, ça sera pareil aussi.
Ça risque d'être compliqué, mais on espère qu'il y aura quand même un effort un peu plus important, étant donné que c'est...
Je sens les reports de peut-être la première ou deuxième journée de Liga pour...
Oh, mais les gars, ils ont des effectifs...
Les gars, franchement, dites-vous qu'on n'aurait jamais pu voir le gardien de Nancy en équipe de France. Et ça, les JO de Tokyo l'ont fait.
C'est vrai. Non, mais il y aura certainement quelque chose qui se fera pour...
Au pire, ils peuvent demander à Gignac. Il a l'expérience.
Oui, il a fait les derniers JO.
Il avait fait les derniers JO à Tokyo.
C'est le meilleur joueur d'équipe de France.
C'est vrai.
Mais je pense que les clubs vont quand même faire un peu plus d'efforts et ça serait franchement bien et respectueux.
C'est chez nous. Honnêtement, l'équipe de France olympique n'a pas été souvent aux Jeux Olympiques, donc ce serait bien qu'ils se bougent un peu chez nous. Quoi.
Je ne sais pas si on n'avait pas fait 84, bon, on gagne. Oui, 96, on est éliminé au premier tour.
Oui, avec Raymond Domenech.
Et je crois que c'est la troisième fois qu'on va au jeu. La quatrième fois, parce qu'il y a eu Tokyo où on est passé pour des cons.
Mais ça va être une...
Et Atlanta, je crois que c'était quart de finale, il me semble.
Ouais, mais on était nuls. Avec Florian Maurice en attaque, déjà, t'es nul.
On avait des bons joueurs, mais bon, on avait le coach qu'il fallait pas.
On avait Lionel Letizy dans les buts. Rappelez-vous ce grand gardien du PSG. merci. T'en as encore assister.
J'attends, il va...
J'ai une autre question qui affole les débats en ce moment, c'est de savoir qui parmi les trois joueurs viendront aider... et renforcer cet effectif. Il y a plusieurs problèmes qui se posent à Thierry Henry et son staff. Dans un premier temps, le fait que l'Euro et les JO vont s'enchaîner sur une courte durée de repos et donc de savoir si les cadres de l'équipe de France pourraient venir aider lors des JO. Personnellement, j'y crois à moyen. Alors qu'il y a quelques mois, on commençait à penser qu'Mbappé pourrait jouer les JO. On s'en éloigne petit à petit suite à chaque prise de parole qu'on entend ces dernières semaines. Et de plus, comme on l'a dit, les clubs commencent à être réticents à l'idée d'envoyer leurs joueurs aux Jeux Olympiques. Alors moi, j'ai une question pour vous. Ça serait, dans un rêve, qui aimeriez-vous voir jouer ces Jeux Olympiques? Le choix sportif ou alors un choix plus romantique
Alors moi, je vais proposer, je sais que tout le monde va rigoler autour de cette table.
Oh, ben on a l'habitude.
On a l'habitude. Moi, je dis qu'il faudrait, en équipe de France, Michel Platini, Zidane et Cantona. Comme ça, on aura trois vieux. Et de toute façon, c'est aux jeunes de courir. Hein. Donc maintenant, démerdez-vous.
Alors, pour moi, en choix sportif, je dirais plutôt Warren Zaïre-Emery. Même s'il va sortir d'un euro.
Il est éligible à jouer,
et il est éligible à jouer l'euro.
S'il fait l'euro.
Mais je pense qu'il fera l'euro, même s'il ne va pas jouer beaucoup de matchs vu la concurrence.
Donc, il pourra aller un jour.
Mais il ira aux Jeux Olympiques.
Jonathan Clauss, parce que de toute façon, personne n'en veut à Marseille. Donc
Moi, je pense qu'en attaque, on n'a pas. les espoirs en attaque, ils ont, je pense, ce qu'il faut. C'est ouais. peut-être
c'est en défense.
C'est en défense.
C'est la défense ouais. où on peut-être, a pas mal de mal.
Peut-être à voir, justement, si Jonathan Clauss, par exemple, n'est pas...
Sur un côté.
Par exemple, si, à droite, par exemple, il y a Pavard, Koundé, Clauss. J'espère que celui qui n'ira pas à l'Euro fera les JO, par exemple. Après Mbappé, on aimerait bien. Après, ils ont dit, attention, les joueurs du Real n'iront pas. Mbappé c'est peut ça. Très bien se dire, moi, je signe pas tant que...
C'est vrai que le Real a...
Il peut faire traîner
son transfert, voilà.
Même s'il arrive le 31 août à 23h50, ils diront pas non, le Real. Hein.
Bah, c'est clair.
Ça, c'est clair. Hein.
Et après...
Je pense que ça fera partie de la négociation. Faudra...
Dans son contrat, ça doit forcément être discuté. Doit,
et en troisième, discuté, il faudrait peut-être un leader. Alors, Hugo Lloris...
Moi, je verrais bien un Hugo Lloris.
Moi, je verrais bien Hugo Lloris. Ou alors, en attaque, Olivier Giroud.
Giroud, il mais voudrait, il mais le problème, c'est qu'il y a l'euro voilà. et l'euro. Giroud, il a aussi.
Il a l'euro. Lloris ou Mandanda dans les cages. Moi,
honnêtement,
je dis,
tu mets un mec solide.
Ouais, c'est dur pour le gardien, quand même, en vrai.
C'est dur pour le gardien.
C'est dur pour le gardien. Mais.
Après, s'il y a des tirs au but, on sait que tu mets pas.
Tu mets pas Hugo Lloris.
Hein. Non, mais un patron en défense. Faudra
un Raphaël Varane qui joue.
Un Varane.
Qui a pris sa retraite.
Ouais. Moi, j'avoue que je mettrais. En vrai, j'aurais aimé avoir Mbappé, parce que c'est ça que ça va faire la diff. Mais avoir soit Tchouaméni ou Camavinga au milieu de terrain. Ah,
oui,
le problème, et un mec derrière.
Cible, ouais.
Pour moi, le problème, c'est.
Konaté, peut-être.
Si tu mets Mbappé aux Jeux Olympiques, c'est super. C'est sûr que là, ça va être. L'équipe, elle va prendre un niveau énorme. Le seul problème, c'est que. Les autres, est-ce qu'ils vont pas se dire, tu donnes la balle à Mbappé, ils se démerdent.
Non.
Aussi.
Et il faut qu'il y ait un mouvement collectif. Quoi.
L'espoir, c'est pas pareil que les. L'espoir, c'est que des égos. Hein.
Oui.
Donc, c'est vrai que l'espoir, c'est on prend le ballon, on essaie d'aller.
On essaie d'être le héros tout seul.
Regardez comment joue par exemple Ryan Cherki. Cohabiter avec Mbappé, c'est vrai que ça serait difficile.
Ça serait difficile pour lui. Ouais.
Comme ça. Parce qu'en espoir, c'est là où tu essaies d'affirmer ton égo.
Ouais.
Et
te faire bouffer par.
Et là, on te met au milieu le centre du monde de la planète football.
Bah, mais je pense que ça se passerait bien quand même niveau groupe.
Bah, faut espérer. Ça se passerait bien niveau groupe, mais.
Sur le terrain, est-ce qu'ils auront envie de. Ils auront tous envie de briller.
De toute façon, c'est le problème d'ajouter un joueur d'expérience qui est vraiment.
Moi, je pensais sinon au milieu de terrain, s'ils veulent un vrai patron technique, un Nabil Fekir.
Ouais, voilà.
Nabil Fekir,
qui a encore eu de très beaux restes, honnêtement, mais qui n'est plus international.
Honnêtement, moi, je maintiens ma connerie de tout à l'heure de dire Gignac.
Bah, Payet, alors.
Payet ou alors Payet, Benzema.
Ou un Fekir ou
Payet, un Benzema aussi.
Benzema, pourquoi pas. Après Benzema...
C'est vrai qu'on l'a pas cité. Ouais,
il n'y a pas vraiment de club en ce moment.
Voilà.
Benzema, d'ailleurs, dit qu'il aimerait bien jouer.
Ouais, après, est-ce qu'il aura le rythme de compétition? Et surtout avec Thierry Henry, est-ce que ça s'entendrait bien?
Oui, après, c'est un tournoi qui dure 7 jours.
Pareil pour N'Golo Kanté.
N'Golo Kanté aussi peut être appelé.
Comme dit Didier Deschamps, moi je ne prends pas les 23 meilleurs, je prends les 23 qui sont en
train de jouer.
Benjamin Mehdi. Par contre, il faudrait juste enfermer qu'il ne voit pas le public, surtout les filles.
Merci messieurs, on va enchaîner parce qu'il est 20h.
Yes.
Je ne vais même pas mettre de 4ème musique parce que comme ça, on va gagner du temps.
On va le mettre à la fin.
Enfin, oui,
tu peux les mettre à la fin.
Oui, je veux passer à la
fin. Un petit blind test, voilà.
Moment Gabriel.
Consonne.
L.
Voyelle.
E.
Consonne.
Q.
Voyelle.
U.
Voyelle.
I.
Consonne.
Z.
Quatre lettres, pas mieux. Le quiz.
Je pourrais pas le dire en off, mais je suis sur la plage de Florian Maurice que tu disais. Je rappelle que Florian Maurice a participé au JO de 96 avec Lyon et qu'il a marqué 3 buts. Donc le gars, il est parti au JO, on lui a laissé y aller. Donc le mec qui veut pas laisser ses joueurs, il se moque un peu des gens quand même.
C'était contre le Portugal qui s'est
perdu
la France.
Oui, en plus contre deux gros joueurs, hein, Capucho et Calado, on les a jamais revus après.
C'est ce que Pires avait dit dans Les yeux dans les bleus 98.
Voilà. Ouais. Gabriel, c'est à toi.
Évidemment. Le quiz. Très beau quiz.
Très beau quiz.
Très beau quiz.
Avec de belles questions.
Voilà. C'est un quiz football.
Comme par hasard.
Comme la semaine dernière.
Évidemment, parce que Ravi m'avait donné une petite idée. Ce dimanche, il y a le Classico.
Le classique.
Ah ouais.
Le classique.
Le classique.
Ah, mais tu sais, c'est devenu un match lambda. Donc
Et pour accueillir vos camarades et à parler des espoirs, eh bien, je me suis dit, des joueurs qui sont passés par les espoirs et qui ont joué au PSG et à l'OM.
Oh le salopard.
Je vais donner une liste de clubs. Vous allez devoir trouver le joueur qui correspond.
Attends, tu as donné une liste de clubs et faut qu'on
liste de joueurs.
Une liste de joueurs, d'accord.
Non, une liste de clubs.
Ah, il faut qu'on devine quel joueur tu parles.
Ah, oui. De sa carrière. Je vais donner la carrière pour trouver les joueurs.
Oh, oula. Bah ça devrait
et
aller.
Et je rappelle, ils ont joué au PSG ou à l'OM, voire les deux. Et ils ont été international espoir. Ils se sont tous d'ailleurs retrouvés en équipe de France après.
Je me permets de t'interrompre juste 3 secondes. Rami, la prochaine fois, tu as une grande idée, tu te la gardes et tu te la fous où je pense. Merci.
T'as pas apprécié le quiz la semaine dernière de l'Euro. Ah non, là, tu te manges.
Ah non, mais là, tout le monde.
Alors, sachez que quasiment tous les joueurs étaient là sous Didier Deschamps. Okay. Mais évidemment, okay. C'est pas le plus évident. Vous me connaissez. Il va falloir remonter peut-être certains au début de l'ère Deschamps. Et les derniers, par contre, ils n'étaient même pas là sous Deschamps.
D'accord.
T'inquiète.
Alors, on va commencer. Alors, vous jouez tous en même temps.
Oui.
C'est le premier qui me donne la bonne réponse, il a le poids.
Oui.
Par contre, si vous me donnez une mauvaise réponse...
Vous êtes éliminé.
De cette question, vous êtes...
Donc, laissez-moi répondre en premier, les gars. Je suis éliminé. Je me casse.
Alors, premier joueur, j'ai joué au PSG ou à l'OM ou les deux et j'ai été international espoir. Alors, on va commencer. Sochaux. Monaco. AS Rome.
Jérémy Ménez.
Jérémy Ménez.
Bien joué. J'allais dire
Rome, Paris Saint-Germain. Ouais.
Rome, Paris Saint-Germain, AC Milan, Bordeaux.
C'est après quand il y a eu Rome, j'ai fait, oh putain, c'était Ménez.
Bordeaux, Antalya Sport, Club America, Paris FC, Regina, Bari. Quelle carrière.
Ah oui, il a fait autant que ça. Il a fait
le tour du monde, quoi.
Ah oui, quasiment.
Un club trotteur, ouais.
Alors, un point, Cédric.
Il a gagné combien de titres?
Il a quand même gagné le championnat avec le PSG en marquant le but de la victoire contre Lyon en 2013 et 2014 aussi.
Il avait gagné les deux. Le suivant. Olympique Lyonnais. Nice. Marseille. Queen's Park Rangers.
Loïc Rémy.
Yes.
Bien joué,
Loïc Rémy.
Alors lui... Il fallait le trouver. Hein.
À Queen's Park Rangers, Marseille, ouais, j'ai trouvé Loïc Rémy. Et même
Queen's
à
Park
Nice.
Queen's Park Rangers, Newcastle, Chelsea, Crystal Palace, Las Palmas, Retafe, Lille, Rizespor, Demirspor, Brest.
Oh, on l'aurait perdu à la fin.
Et il me semble qu'il a été prêté à Lens.
Oui,
il a été prêté l'année où ils sont descendus d'ailleurs.
Ouais, 2008, ouais.
Quelle carrière aussi, Loïc Rémy. Oui. Et ben ça fait 1-1-0-0. Le troisième, il y en a 10 et j'en ai gardé un 11e s'il y en a gagné.
Oula, on a mis.
Alors le troisième, Le Havre, Chelsea.
Gaël Kakuta?
Non.
Ça a été beau. Ah, je suis éliminé du coup.
Arsenal, Portsmouth.
La Sana Diarra.
Ah ouais.
Oh non.
Putain, j'allais dire Marouane Chamac.
Oh non, c'est Bordeaux, Chamac.
Il a jamais joué au Havre.
Non, mais c'est parce que Arsenal, j'ai fait un but à Marouane Chamac. Et en plus, il est marocain.
Portsmouth, Real Madrid.
Le pire, il a jamais été espoir.
Real Madrid, Angie en Russie, Lokomotiv, Marseille.
Ah oui, putain, il avait joué un match en Russie.
Il avait joué Makhachkala et Lokomotiv.
Makhachkala, quand ils avaient mis tout plein d'argent. Marseille, Al Jazeera, Paris Saint-Germain.
Quel club de merde.
2-1-0-0. Le quatrième. Attention.
Il est éliminé.
Ah non, juste sur la question. Juste sur la question.
Vous êtes fous, là.
Il veut se débarrasser de la concurrence. Lille. Newcastle. Comme tous les joueurs français des débuts des années 2010, j'ai envie de dire.
Ben Arfa.
Non.
Merde.
Mathieu Debuchy.
Non.
Ouh. Ah, j'aurais
Lille,
vu.
Newcastle, Paris Saint-Germain.
Ah, je l'ai, mais trop tard.
Crystal Palace.
Cabaye.
Johan Cabaye.
Bien joué. Ouais, j'attendais de vous. J'allais zapper Arthur.
Crystal Palace.
Moi, j'attendais
Al-Nasser,
le Crystal Palace pour...
Al Nasser, AS Saint-Etienne.
Moi, Yohan j'attendais Cabaye. PSG, bravo. Ouais. Parce que moi, j'ai entendu.
2-1-1.
Zéro. Oui, bah c'est normal. Hein,
allez,
le foot,
alors le cinquième, il va aller très vite, normalement.
Donner des points.
Monaco. Paris Saint-Germain.
Mbappé.
Non.
Kurzawa.
Ah, bien joué.
Oh là là. Je savais qu'il allait tomber, je sais pas pourquoi.
Bien joué.
Paris Saint-Germain, Fulham, Paris Saint-Germain.
Ah oui, mais si tu me balances aussi Fulham derrière.
Paris Saint-Germain, il revient à égalité de 2-1-0.
J'avais oublié qu'il était à Monaco au départ.
Alors, celui-là aussi, il est costaud. Montpellier, Arles-Avignon, Montpellier, Newcastle. Ils sont tous passés par Newcastle. Olympique de Marseille.
Rémi Cabella.
Rémi Cabella.
Ah ouais, non, j'aurais pas trouvé.
Alors, pour dans, la semaine prochaine, tu vas me faire une recherche, s'il te plaît, sur pourquoi les mecs se barrent à Newcastle et c'est une ville chiante.
Oui, en plus, c'est tout là-haut. Quoi,
Marseille, Saint-Étienne, Krasnodar, Montpellier, Lille. Ah, 3, ouais, non, mais... 2,
Rabi, Manchester, c'est tête. Pareil.
Et belle ferveur du supporter quand même à Newcastle. Ah oui.
Alors, surtout à St. James Park.
Celui-là va aller aussi, je pense, très vite. Laval. Montpellier.
Bernard Mendy.
Non.
Merde.
RB Leipzig. Paris Saint-Germain.
Jean-Kévin Augustin.
Non.
Non, parce que ça aurait été dans le sens inverse.
Ça aurait été sens inverse.
Non, non, j'ai pas.
Laval, Montpellier, Leipzig, Paris Saint-Germain. Il est d'ailleurs au Paris Saint-Germain.
Ah. Moukielé.
Moukielé.
On a bien joué.
Ah bon.
Ah, j'aurais pas su moi, Montpellier, je sais pas
où je pensais. Eh oui.
Montpellier, Paris, j'aurais pensé à Stambouli aussi,
ouais,
mais non.
Ah ouais, il y a Leipzig entre les deux. Donc Moukielé, 3, ouais. 3, 1, 0.
0. je t'accompagne dans ta...
Alors celui-là aussi devrait aller très vite, le 8e. Alors attention. Paris Saint-Germain.
Ouais.
Liverpool.
Sako.
Mamadou Sako.
Bien joué.
Bravo.
Pas mal.
Ah ouais, le mec
bravo.
Qui servait à rien à Liverpool. Ouais.
Et oui.
Après, il a fait Crystal Palace.
Crystal Palace, la...
Crystal et, Palace Montpellier. Et Montpellier.
Ouais, c'est la preuve.
Quand il n'a pas fait Newcastle, chapeau.
Non.
Quand tu passes de Liverpool à Crystal Palace, c'est que t'es nul.
Il revient dans la course. Carrière, il revient dans la course 3-3-2. Alors là, celui-là. On n'est pas sous Didier Deschamps, sachez-le.
Ah bah c'est
et
bon.
Et alors là, va falloir vraiment aller dans vos souvenirs.
Tout à l'heure, tu dis c'est Didier Deschamps.
J'ai dit que j'en avais quelques-uns à la fin. Et celui-là, attention.
C'est une pépite.
FC Martigues, RC Lens, Châteauroux, Lens, Nice, Rennes, Marseille, Al Arabi, Charlton, Marseille, Impact de Montréal.
La vache.
Ouais. Alors là.
Et qui finit à Montréal.
Et oui.
Qui finit à Montréal.
D'ailleurs, il a fini sa carrière à Montréal. Il est à la retraite. Hein.
Il est passé par,
par Marseille.
Ah! Rod Fanny.
Rod Fanny, bravo.
Oh là 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 là.
Alors là.
Martigues, j'aurais pas su. Au début, j'hésitais avec Cyril.
Lance Rennes, j'ai retrouvé Rod Fanny parce qu'après, il a été recruté en tant que joker médical.
Il fallait chercher Rod Fanny. Hein.
Ouais. Ouais.
Alors là, bravo.
Ouais, pas facile. Hein.
Alors là, Arthur, tu dois marquer un point pour peut-être faire la finale. Sinon,
non, non, sinon, c'est moi qui.
Mais toi, t'es à 2.
Oui, mais je peux le rejoindre à 3.
Lui, il est à 4, ça sera fini.
Ah oui, mais je peux le rejoindre à 3.
Bah oui, tu peux essayer. Alors là, celui-là aussi, il n'a pas joué sous Didier Deschamps. Et alors lui. Attention, Marzala.
Patrice Evra.
Patrice Evra. Oh.
Allez.
Alors là.
Bravo Cédric.
Merci le football manager.
Marzala, Monza, Nice, Monaco, Manchester United, Juventus, Marseille, West Ham, Patrice Evra. Alors là.
I love his game.
Ouais, il a fini à West Ham.
Ouais, il a fini à West Ham.
Il a même eu une place en finale parce qu'il a juste dit Marzala qui n'est même pas en France.
Alors tu veux faire une finale, Gabriel?
Ouais, je vais faire une finale.
Gabriel, je pose une réclamation. Alors, je suis désolé, dans ta liste, tu as oublié Naïsna et Chasseur de taupes. Parce que là, j'aurais trouvé.
C'est vrai que j'aurais dû mettre le but.
Et Loukic Guimarèche. L'homme de Guimarèche aussi.
C'est vrai. Donc.
Éliminé.
Mais... Arthur, c'est dommage, mais quand même, t'as fait
mieux. Trois points avec lui.
Ah, il a tenu tête, hein, Arthur, hein, chapeau. Hein.
Alors, je vais. Oui, bon. Au pire, fais une finale à 3. Tiens.
Oui, voilà.
Allez,
oui,
une
voilà.
finale à 3. Philippe, tu restes spectateur. Alors là, celui-là.
Moi, je suis celui
voir.
Qui peut dire de la merde.
Alors,
moi,
parce que vous allez voir. Celui-là, alors, il a joué au début de l'ère des champs, mais il était déjà là avant.
Ouais.
Et attention, parce que la transition des deux premiers joueurs, peut-être que Football Manager va aider, mais elle est violente.
Non, ouh. Des deux premiers clubs, tu veux dire.
Des deux premiers clubs. Ça va être très violent. Vous êtes prêts? Louan Cuiseau. Bayern Munich.
Je l'ai.
Vas-y.
Cuisance.
Non oh. Alors là, cuisance. Non.
Non.
Bayern Munich. Liverpool.
Ah, je l'ai alors du coup peut-être. Oui,
Le
sinon,
Havre.
Je l'ai.
Bastia. Lens.
Je l'ai.
Lyon.
Alou Diarra.
Alou Diarra.
Bien joué,
alors,
trop vite. Hein,
trop vite.
Je pensais que c'était Michael Cuisance.
Alors là, mais alors
on
là,
peut
la
quand même saluer la transition Louan de passer Cuiseau, de Louan Cuiseau
Bayern,
à Bayern.
Oui,
j'aimerais bien.
D'ailleurs, sachez que Alou Diarra a joué 0 match au Bayern et à Liverpool.
Incroyable.
Incroyable.
Ensuite, moi, je le fais jouer à Liverpool. Hein, ouais.
Ensuite, Le Havre, Bastia, Lens, Lyon.
Lens,
Bordeaux,
Lyon, je savais. Ouais. Bordeaux.
Marseille.
Surtout à Bordeaux, je crois qu'il a été.
Bordeaux, oui. Ouais.
À Lyon aussi, il a été Lyon, champion
Bordeaux.
De France. Ouais. Ouais.
Marseille, West Ham, Rennes, Charlton, et il termine sa carrière à Nancy.
Après le Stade Rennais, ouais.
Après le Stade Rennais. Non, il a fait Charlton, il était prêté à Charlton au milieu de sa.
En milieu de saison, ouais.
La deuxième chose que tu nous rechercheras, pourquoi ils vont tous aussi à Charlton?
À Charlton.
Ouais. C'est chiante.
Il faut se mouiller la nuque, hein, le Luan cuise au bord Bayern Munich.
Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, ça m'avait choqué aussi.
Par contre, Cuisance, t'aurais trouvé Cuisance, là, ça aurait été aussi.
Cuisance, c'était pas mal.
Par contre, le directeur sportif de Luan Cuiseau, quand il a répondu, c'est le Bayern Munich. Le mec, c'est ça, c'est une blague.
Tu l'as transpiré à la
l'année où il est passé au Bayern.
C'était en 2002, je crois.
Parce que Luan Cuiseau, pour ceux qui ne savent pas, c'était encore un club de national. Enfin, il quittait la Ligue 2 pour le national. Donc.
Bah, c'était en 2002 à peu près. Voilà,
mais il est passé en préformation ou...
Ouais, non, c'était enfin dans le parcours professionnel. Ah, ouais. Il était à Luan Cuiseau et après il part au Bayern pour ses remarques.
Il part au Bayern,
voilà. Et après,
il devait être bon pour que le Bayern s'intéresse.
En fait, le Bayern a refourgué à Liverpool pour qu'il joue zéro match et après il se retrouve au Havre et il démarre vraiment sa carrière.
Parce que il a bien travaillé pour aller voir Luan.
C'est bon agent.
Il a joué 2 saisons à Luan Cuiseau avant de partir Bayern.
Pour garder le stade olympique de
Munich. Oui, c'est
Munich.
Vrai que c'était encore le stade olympique.
C'est encore le stade olympique. Le stade olympique.
Et ben bravo Rami. Alors par contre aussi bravo à Cédric parce que le Patrick Evra. Ouais.
Ah oui, Marzala.
Moi je l'avais choqué qu'il commence en Italie mais
oui, il avait démarré en
Italie. Il avait commencé à Monza, moi j'avais souvenir mais pas Marzala.
Et non, c'était juste avant. Ouais. Parcours professionnel avec Marzala, je me suis
dit. Il s'était fait déjà déglinguer par les insultes racistes avant d'arriver en France. C'est donc c'est pour ça que ça l'avait déjà marqué. Ouais.
Bah en tout cas, bravo, bravo Rami, bravo à vous trois.
Oui.
Et à Philippe.
Oh, moi, je suis
joli spectateur.
Voilà, tu repars quand même avec le livre de Valdemar Quitta, quitte à prendre sa place. Voilà.
Mais
un enchaînement d'entraîneur.
Mais comme dirait ce poète célèbre,
Raymond Domenech,
un certain John Fitzgerald Kennedy, il ne faut pas se laisser abattre.
Voilà. Ah, difficile la transition là.
Alors, on te laisse faire, Cédric.
Ouais, juste avant de nous quitter, parce que. Bravo. Alors, il y avait pas que ces trois chansons-là en 2004.
C'est celui qui nous disait tout à l'heure, je vais pas dire un truc parce qu'on va avoir des problèmes avec l'ARCOM. Hein.
D'ailleurs, on a toujours pas su la fin du truc.
Oui,
avant de nous quitter, il y avait d'autres musiques en 2004, j'ai pas pu passer. Voilà. Et c'est là.
Amio.
Ça parle de toi, Rami.
Viens couper, décaler. Déjà, ils sont en train de couper, décaler là-bas.
Il faut là. J'ai peut-être du mal à lancer.
Mais c'est le son aussi.
Ouais. Voilà. Oui. Avec Denzel.
Très
elle
connu.
Avait 5 minutes donc je pouvais pas la mettre. Il y avait celle-là. Une reprise avec les paroles de Charlie Chaplin.
Oui.
Dedans.
C'était comment il s'appelait ?
Les temps modernes.
Les temps modernes.
Modern Times.
Et c'était le chanteur
G5.
Il
y avait un petit groupe de pop rock américain qui commençait.
Ah.
Voilà.
Adam Levine. Maroon 5.
20 ans donc déjà.
Peace Love.
Alors ils commençaient à être connus parce qu'ils étaient déjà. Ils avaient commencé leur album en 2002, mais c'est vraiment ces deux.
Mais ce son, on les a lancés, ouais.
Bien sûr. Il y avait le fameux Outkast. Bien sûr. 20 ans aussi, ça me rappelle. Exactement.
Un des clips les plus incroyables.
Oui, c'est ah oui, le clip, il est magistral. C'est une pépite.
C'est sûr qu'il y a que des clowns.
C'est sûr que c'est pas trois mecs sur un hélico en Roumanie.
Il y avait celle-là aussi.
Papi Sanchez.
Voilà. Avec Enamoramo, donc 2004. Autre style,
oui.
Qui a été reprise par les Michel
The Rasmus.
Drucker, je crois.
C'est Laurent Ruquier.
C'est Laurent Ruquier, voilà. Donc il y a 20 ans aussi. Et après, il fallait que je passe les deux chansons de Cake.
Oh, oui.
Gunter, avec toutes ses chansons limite salaces, sans explicite, mais sans le dire.
C'est d'ailleurs la chanson qu'a fait Valdemar Quitta à Antoine Comboiré.
Si vous connaissez ce son, ça veut dire que vous avez regardé beaucoup trop de parodies sur YouTube quand vous étiez jeune.
Exactement. Et la dernière, c'est pour ceux qui s'en souviennent, Terrio avec Choupeta.
Ah, voilà. Groupe espagnol, il me semble.
Je n'en sais rien parce que j'étais absolument pas. Donc voilà, c'était les titres un peu connus.
Et juste pour finir. La chanson This Love de Maroon 5, ouais. Elle est utilisée dans une publicité également de boissons, notamment celle que tu as.
Allez, on finit là-dessus.
Le pire, c'est que c'est une chanson qui a été reprise par Patrick Sébastien.
C'est vrai en plus, hein.
Voilà.
En fanfare en plus.
Exactement, on va quitter ça. Donc voilà, c'était globalement, on a oublié les Avril Lavigne, on a oublié tous les trucs comme ça.
Il y avait Linkin Park.
Linkin Park
voilà,
et tout.
Linkin Park, etc. Donc voilà, c'était l'année 2004. On passera peut-être à 84 la prochaine fois que je serai.
Ok, bah moi je passerai à 94 voilà. Alors.
On avait les... Ouais. Avec The Rhythm of the Night.
1994, vous n'êtes pas prêts, les gars.
Ah, il y avait des bonnes musiques.
Il y avait du bon.
Ah, non,
Bah, de toute façon, tu pourras la semaine prochaine, c'est peut-être toi en musique aussi.
Je, on verra.
En tout cas, merci d'avoir participé à cette émission. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été 5, mais on a plutôt respecté les délais, donc on est content.
Grand bravo.
Parce que j'ai pas fait de chronique.
Gabriel, t'es de quiz la semaine prochaine.
Grand bravo à Arthur pour sa vraie première, parce que la semaine dernière, il
c'était
était en stage d'observation. Cette fois-ci, c'est sa première. Bravo.
On attendait qu'il nous paye le kebab en sortant.
Vous voyez comment ils sont les deux là. Les deux vieux. Ça raquette les stagiaires.
Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous mercredi prochain. On sera en avril, je crois, mercredi prochain.
Ouais, le 3 avril.
Profitez du long week-end qui nous attend.
Il y a un classico entre les deux. Donc voilà, profitez du long week-end.
Ça sera plutôt Peggy 18++.
Bonne soirée à vous et à mercredi à 19h.
Salut à tous.
Sortez le couvert.